On va maintenant débattre de la bataille pour la présidence des Républicains dans le face à Duhamel. Nous allons en débattre avec François-Xavier Bellamy, vice-président exécutif des Républicains et député européen. Bonsoir, Monsieur Bellamy.
Bonsoir.
Bonsoir, Alain Duhamel.
Bonsoir.
Alors, avant de lancer la discussion, autant écouter les deux prétendants.
Si l'élection avait lieu dans les jours prochains, je serais confiant. Ce que je vois, c'est qu'il y a une ferveur et que les salles sont pleines. Donc c'est déjà un bon indice.
C'est pas que je pense que je vais gagner, c'est que je suis convaincu que je vais gagner. Parce que je sens qu'il y a une dynamique qui est en train de s'installer.
Bien évidemment, c'est normal. Chacun sent la dynamique, chacun sent qu'il va gagner. Chacun voit les salles qui sont pleines et sent la ferveur. Mais si on regarde un peu les deux hommes aujourd'hui, Bruno Retailleau est ministre, il est sur le devant de la scène, il a la surface médiatique, il a le ton ferme. Est-ce que c'est lui qui est en pole position? Est-ce que c'est lui qui peut sauver LR, Alain Duhamel?
Bon, alors, d'abord, on voit bien que la droite parlementaire nous rejoue sa pièce de théâtre habituelle, sinon préférée, qui est deux hommes pour un fauteuil. Bon, on connaît, ça nous rappelle Chirac Balladur, ça nous rappelle Jean-François Copé et François Fillon, et ça doit, je pense, pour la discussion, nous faire remarquer que les résultats sont beaucoup moins acquis qu'on ne l'imagine au départ, dans tous les cas. Donc, il faut regarder ça avec prudence. Et moi, je crois que ce qui est essentiel, c'est de bien distinguer les électorats d'un côté et les adhérents de l'autre. S'il s'agit des électorats, là, on a 10 sondages, tous convergents, Bruno Retailleau est nettement en tête. S'il s'agit maintenant des adhérents, d'autant plus que beaucoup d'adhérents sont des adhérents des derniers jours et des dernières semaines, bon, recrutés, chacun essayant de recruter le maximum de partisans, si c'est ça, c'est forcément plus énigmatique. Alors, qu'est-ce qui peut les différencier dans la tête des adhérents? Leur notoriété, elle est, disons, comparable. Leur expérience des affaires gouvernementales, locales, régionales, même chose. Leur compétences et leurs ressources intellectuelles sont quand même du même ordre. Bon, donc il reste en fait le caractère. Et en ce qui concerne le caractère, moi en tout cas, ce qui me revient de ceux qui ont assisté à des réunions, etc., réunions qui là sont essentiellement des adhérents et pas des électeurs, c'est que en matière de sincérité et de loyauté, Bruno Retailleau a un avantage. Est-ce que cet avantage-là, on peut le quantifier? Non, c'est plutôt du ressenti que du quantifié.
Moi, je crois qu'il faut mettre cette élection dans la perspective du moment que la France traverse. Aujourd'hui, nous vivons une crise politique majeure. Tous les Français le touchent, le sentent, le perçoivent tous les jours. Et la clé pour nous, notre devoir, c'est de réussir à reconstruire une possibilité d'alternance pour le pays dans deux ans. Et ça, c'est le sujet qui attend notre famille politique. On ne se bat pas pour un parti, on se bat pour le pays. Et moi, si je soutiens Bruno Retailleau dans cette élection interne, comme je le faisais il y a trois ans, c'est pas face à Laurent Wauquiez, contre Laurent Wauquiez. Je crois qu'on a de la chance d'avoir dans une famille politique une diversité de talents, une diversité de profils de cette qualité, vous l'évoquiez à l'instant. D'ailleurs, vous évoquiez ces guerres des chefs qui ont ensanglanté la droite par le passé. Aujourd'hui, ça n'a, me semble-t-il, rien à voir. Nous sommes dans une élection interne. Cette élection interne, elle est l'expression de la respiration démocratique d'un parti politique digne de ce nom, où le pouvoir ne se transmet pas par autre raison que par le choix des adhérents. Et en effet, nous avons deux personnalités de grande qualité qui se présentent aujourd'hui pour pouvoir relever ce défi. La clé, c'est que le 18 mai, le lendemain de cette élection, je n'en doute pas un instant, nous serons tous unis. Si je soutiens Bruno Retailleau, c'est parce que je crois qu'il veut rassembler précisément. Il veut rassembler pour reconstruire avec deux objectifs majeurs. Le premier, c'est de rendre le parti politique de la droite à tous les électeurs de droite. Et vous avez raison de le dire, aujourd'hui, ce parti s'était peut-être rétréci à force sans doute de déceptions passées, à force parfois de manque de clarté sur le fond, de manque d'exigence, de manque de courage aussi. Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui n'a jamais varié, qui n'a jamais dévié. Et notre but, c'est de refaire un parti politique de droite, clair, assumé, cohérent, qui soit capable d'apporter des réponses aux problèmes que rencontrent aujourd'hui les Français. Et je suis sûr qu'il a cette capacité-là. Et la deuxième raison qui me paraît déterminante, c'est que Bruno Retailleau, c'est un travailleur infatigable. Et
oui,
ce parti, il a besoin de travailler. Ils sont tous les deux travailleurs.
Oui,
mais encore une fois, dire les qualités de l'un ne signifie pas nécessairement s'attaquer à l'autre.
Sur ce critère-là, ils se comparent. Les deux sont
bien sûr
laborieux.
Mais et les deux d'ailleurs ont à leur actif de très belles réussites. Et encore une fois, c'est une chance pour une famille politique comme la nôtre d'avoir des talents de cette importance qui peuvent se mesurer aujourd'hui.
Je trouve que vous avez raison d'être pessimiste sur la situation générale, mais vous avez peut-être tort d'être optimiste en ce qui concerne votre formation politique.
Je ne suis pas optimiste.
Responsabilité, ça c'est normal. Chaque formation politique a sa responsabilité. En étant démocratie, tout ça est parfaitement logique. Mais ce que je veux dire, c'est que les Républicains, qui ont été le premier parti de la Ve République pendant des décennies, moi je les ai vécues ces décennies-là, aujourd'hui est un parti qui est un parti en très mauvais état. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas au pouvoir en tant que tel, parce qu'il y a des ministres, 7 si j'ai bonne mémoire, qui sont républicains, mais ça n'est pas le parti républicain en tant tel qui est au gouvernement. S'ils sont dans cet état, ils ont un certain nombre d'échecs passés. Et parmi ces échecs, il y a bien entendu des questions de rivalité personnelle, comme aujourd'hui, mais rivalité qui est légitime, c'est le fonctionnement de la démocratie dans un parti, c'est tout à fait normal, mais aussi par une absence de renouvellement d'idées et le sentiment est un sentiment qui a été donné d'usure. Alors, c'est évidemment l'ennui quand on a très longtemps exercé le pouvoir, c'est que c'est difficile d'échapper à l'usure dans ce cas-là, mais le renouvellement intellectuel, en plus c'est un sujet, un terrain qui vous intéresse, le renouvellement intellectuel au sein des Républicains, pour l'instant, on a plutôt vu des coups de théâtre avec Éric Ciotti passant du côté du Rassemblement National, dans le passé des rivalités terribles, étant exclusivement des rivalités de personnes et jamais des rivalités d'idées. Et au fond, aujourd'hui, il n'y a plus de socle intellectuel ou idéologique, comme on veut, original du Parti Républicain. On ne se dit pas où sont les idées neuves du Parti Républicain. Et je suis frappé de voir que dans ce duel actuel, ça n'est pas ce qui émerge. Ce qui émerge, c'est ces deux personnalités, de personnalités de bonne envergure, toutes les deux. Mais on ne voit pas des idées nouvelles qui apparaissent. Or, on est à 2 ans de l'élection présidentielle, c'est très peu.
Mais c'est exactement pour cette raison-là que je vous disais que nous avons devant nous un immense travail à faire pour reconstruire une formation politique qui soit capable de réussir. Ça suppose de renouveler en effet nos idées en étant fidèles à une ligne, parce que le but est justement de cesser de dévier ou de rompre avec les contradictions qui ont coûté si cher à ce parti dans son histoire. Et puis, ça suppose de se renouveler aussi sur la méthode, sur la manière de faire de la politique. Donc, on a un immense travail. Et moi, je suis confiant dans le fait que Bruno Retailleau saura mener ce travail. Si je vous disais tout à l'heure que je crois que nous en sommes capables, c'est parce que c'est notre devoir. Je crois profondément qu'aucune autre formation politique aujourd'hui ne peut réussir l'alternance dont la France a vraiment besoin. Et c'est ma conviction que non seulement c'est possible, mais que même nous le devons. Aujourd'hui, si vous regardez bien, la vérité, c'est que sans doute, jamais autant de Français n'ont été proches des idées que représente une sensibilité politique de droite. Les aspirations des Français, elles sont majoritairement connues et elles sont assez simples au fond. Et ces aspirations, c'est à la droite de les défendre. Mais si notre famille politique est si minoritaire, c'est justement parce que pendant trop longtemps, nous n'avons pas su mériter la confiance des Français. C'est ça le travail que nous devons faire aujourd'hui. Et une chose qui me paraît être pour le coup positive dans le moment que nous vivons, depuis le début de cette campagne interne, il y a 3 mois 45 000 adhérents. Il y en a aujourd'hui plus de 100 000. Il reste encore quelques heures pour adhérer. Nous sommes le 17 avril, si vous voulez voter le 17 mai. Et dans les nouveaux adhérents qui nous rejoignent depuis quelques mois, il y a une partie importante, sans doute un gros tiers, qui n'avait jamais adhéré à un parti politique. Ce qui veut dire que des Français rejoignent aujourd'hui les Républicains, pour beaucoup pour la première fois, en se disant que c'est sans doute par là que peut passer l'alternance dont la France a besoin.
D'abord, ça n'est pas la première fois que ça se produit, ça. C'est-à-dire que quand les Républicains font voter pour choisir un leader, il y a toujours un afflux de personnes qui arrivent, qui votent, et puis qui ensuite s'en vont.
Mais souvent de personnes qui reviennent. Là, on a qui adhèrent pour la première fois.
Oui, mais enfin, bon, on connaît les résultats, enfin, on connaît l'habitude. Avant le vote, il y a un afflux de personnes. Après le vote, il y a des départs. Bon, c'est comme ça. Mais sur le fond, vous avez tout à fait raison de dire que la France, dans dans sa majorité, évidemment, pas du tout dans sa totalité, mais la France dans sa majorité, donne le sentiment d'aller dans votre direction idéologique théorique. Et moi, ce que je crois, c'est d'abord que la France a tendance à aller plus loin que vous, vers la droite. Et que s'il y a un mouvement vraiment perceptible d'opinion, mais pas depuis des semaines ni des mois, mais depuis des années et des années, c'est au contraire d'aller au-delà des Républicains vers la droite. Et que d'avoir un nouveau leader, c'est sûrement une aide, mais ça n'est pas forcément une solution. Et d'autre part, que, et j'en reviens à ce que je disais avant, mais je pense que c'est un terrain qui vous intéresse, de toute façon, vous, personnellement, pour qu'il y ait un renouveau de la droite, il faut qu'il y ait un renouveau des idées de la droite. Et pour l'instant, vous avez raison quand vous parlez des sentiments des Français, s'il s'agit de trouver ce qui ressemble vraiment à un projet qui apparaisse nouveau, pour l'instant, je n'en vois pas l'ombre d'un commencement.
Mais parce que c'est le travail qui nous attend au lendemain de cette élection. Vous avez tout à fait raison, il faut bien qu'on ait...
Ça aurait pu commencer avant.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça fait très longtemps que ça aurait dû commencer et c'est la raison pour laquelle, déjà il y a 3 ans, je soutenais Bruno Retailleau dans la même élection interne. Et je crois que s'il avait été élu, on aurait certainement pu avoir l'occasion de ce travail de fond qui nous attend. Ce travail de fond, par ailleurs, on a eu l'occasion de le mener dans des élections. Pour ma part, j'ai été tête de liste aux élections européennes et avec le recul, je suis fier du programme qu'on avait porté parce qu'il parlait précisément de ce dont l'Europe a besoin. Retrouver notre sécurité, garantir la compétitivité de nos entreprises, retrouver la maîtrise de notre destin. Donc, on a déjà commencé à travailler. Ça n'est pas d'ailleurs pour rien si aujourd'hui les Républicains, malgré toutes les difficultés qu'on leur connaît, sont aujourd'hui à la tête du plus grand nombre de communes en France, ont une majorité au Sénat qui stabilise aujourd'hui nos institutions, sont devenus la force qui a permis de garantir que la France sorte de la crise politique avec l'entrée de Michel Barnier à Matignon il y a quelques mois. On n'a pas non plus complètement disparu. Et la dernière chose que j'observe et qui me paraît importante, c'est que vous avez raison de le dire aujourd'hui, parce qu'ils ne croyaient plus en nous, les Français se sont tournés pour une grande part d'entre eux. Certains vers Emmanuel Macron, d'autres vers le Rassemblement National, se sont détournés de la droite. Mais aujourd'hui, nous arrivons à la fin d'un cycle et ma conviction, c'est que c'est à nous de relever le défi que la France attend aujourd'hui. Je vois dans tous les autres pays européens qui nous entourent.
Si vous avez un homme, le bon, et les idées.
On va commencer par élire un président de parti dans un mois et ensuite on va travailler justement sur le fond. Mais aujourd'hui, si vous regardez la dynamique en Europe, quand j'ai été élu au Parlement européen pour la première fois en 2019, il y avait 7 gouvernements de droite sur 28. Aujourd'hui, il y a 15 gouvernements de droite sur 27. Oui. Ce sont nos alliés, les alliés des Républicains.
Monsieur, je vous interromps, priorité au direct, mais ça va vous intéresser. Regardez, nous sommes sur le seuil de la Maison-Blanche et c'est Giorgia Meloni qui vient en entretien avec Donald Trump, justement. Alors, la question qu'on se pose, c'est Madame Meloni, la présidente du Conseil italien, elle vient pour négocier pour elle-même ou elle vient pour les Européens, là, monsieur le député européen, monsieur Bellamy?
Elle vient, mais comme d'autres chefs d'État et de gouvernement européens sont venus rencontrer le président des États-Unis il y a quelques jours et quelques semaines, elle vient évidemment pour parler au nom de l'Italie, mais elle vient aussi parce qu'elle veut défendre la nécessité pour les États-Unis de retisser leur lien avec l'Europe tout entière.
Alors, elle vient sûrement pour l'Italie et les gouvernements européens espèrent qu'elle vient aussi un peu pour eux, mais n'en sont pas sûrs. On le verra après.
Mais comme Alexander Stubb il y a quelques semaines, comme Emmanuel Macron il y a quelques semaines, européen.
Hein. On va bien le voir, ça, de toute façon.
Bien sûr.
Mais je reviens à ce que vous disiez. Vous aviez factuellement tout à fait raison en disant l'augmentation du nombre de gouvernements de droite progressive en Europe. Mais le problème, c'est que le grand mouvement qui existe en Europe, c'est pas le nombre accru de gouvernements de droite. C'est les progrès dans la quasi-totalité des pays européens, et quelquefois de façon extrêmement spectaculaire, de formes de populisme extrémiste ou d'extrême droite, qui vont très au-delà de ce que vous pouvez représenter sur le plan politique, et avec des idées et des comportements, des convictions et des cultures complètement différentes, et qui sont, je ne dis pas en train de vous submerger, mais qui vont au-delà de vous.
Non, je me permets d'être en désaccord avec vous.
Vous avez tout à fait le droit.
La vérité, c'est qu'il y a eu un moment où le débat européen était le débat des progressistes contre les populistes. C'était Matteo Renzi contre Salvini en Italie. C'était Podemos contre Ciudadanos en Espagne. C'était un bloc central contre des forces qui incarnaient une radicalité. Aujourd'hui,
c'est la droite contre l'extrême droite.
Le débat qui réapparaît partout, c'est le clivage entre la gauche et la droite.
Et et entre la droite et l'extrême droite.
Mais les amis de Madame Le Pen ne gagnent pas en Europe. Madame Le Pen n'a pas d'alliés qui gouvernent en Europe.
C'est une habileté. Parce que du tout. Mais attendez.
La force politique qui gagne en Europe partout, c'est la force qui incarne la droite de gouvernement. Ce sont nos alliés. Le PPE, c'est la première force politique européenne. C'est la force à laquelle nous appartenons.
Le PPE, c'est la première force politique européenne.
Et la deuxième force, c'est les socialistes.
Les progrès qui ont eu aux élections sont tous au bénéfice de formes de populisme ou d'extrême droite. Et il n'empêche qu'il y a plus de gouvernements de droite qu'avant, mais que le courant va au-delà. Merci. Et j'ai l'impression qu'en France, ça n'est pas très différent.
Merci François-Xavier Bellamy.
Merci à vous.
Merci Alain Desmet.
L'avenir démontrera où se trouve ce courant.
Dans un mois, l'élection. C'est dans un mois.
Dans un mois,
l'élection. Oui.